إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أبو العباس عبد الله بن عباس qu'Allah les agrée, a dit: « Un jour, alors que j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit: « Oh garçon, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, demande à Allah. Et si tu cherches de l'aide, implore l'aide d'Allah. Sache que si tout le monde se réunissait pour te faire profiter d'une chose, il ne pourrait te faire profiter que d'une chose qu'Allah a écrite pour toi. Et s'ils se réunissaient pour te nuire par une chose, ils ne pourraient te nuire que par une chose qu'Allah a écrite contre toi. Les plumes sont levées et les feuilles ont séché. » Rapporté par At-Tirmidhi, qui a dit: « C'est un hadith bon et authentique. » Et dans une autre version que celle de At-Tirmidhi, il est rapporté: « Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Cherche à connaître Allah lors de l'aisance, il te connaîtra lors de l'adversité. » Sache que ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre et ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. Sache que la victoire vient avec la patience, la délivrance avec l'adversité et la facilité avec la difficulté. Donc comme vous le voyez mes frères, ce hadith est un hadith immense qui est appelé par certains savants les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas donc, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car son père, Al-Abbas, c'est l'oncle paternel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est son cousin et il était beaucoup plus jeune que lui. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors qu'Ibn Abbas n'avait que 15 ou 16 ans, approximativement. Donc, alors qu'il était derrière lui, c'est-à-dire qu'il marchait derrière lui ou bien qu'il était avec lui sur une monture. Les deux sens sont probables, mais ce qui nous importe, nous ici, c'est les recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a adressées. Il a commencé par lui dire au garçon, car comme on l'a dit, Abdullah ibn Abbas, il était petit à ce moment-là. C'était un enfant. Et ceci nous montre l'importance d'enseigner aux enfants la croyance correcte, la croyance de l'islam, de lui enseigner les bases de la croyance dès son plus jeune âge. Et tu ne dois pas dire: ce n'est qu'un enfant, il ne comprend pas encore, il n'a pas les capacités de comprendre ces choses-là. Ou encore, comme le disent certaines personnes, il apprendra cela quand il sera grand. Non, c'est dès son plus jeune âge qu'il faut lui ancrer dans son cœur la croyance correcte, la croyance authentique, la croyance des gens de la sunna, celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée ici dans ce hadith à Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Il lui a donc dit: je vais t'enseigner des paroles. Et il lui a dit cela dans le but d'attirer son attention sur ce qu'il allait lui mentionner. C'est-à-dire, je vais t'enseigner des choses, prête attention à ce qui vient, prête oreille à ces paroles que je vais t'adresser, car ce sont des recommandations immenses qui méritent toute ton attention. Il a commencé donc par lui dire et lui adresser cette première parole ou cette première recommandation. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, c'est-à-dire préserve les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Préserve la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Préserve la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, en te soumettant à ses ordres et en t'écartant des interdits. Et tu ne pourras préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala que par quoi ? Que par l'apprentissage de ta religion. En apprenant ce qui t'incombe en termes d'adoration. En apprenant ce qui t'incombe vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis de tes enfants. Ainsi, en apprenant la religion, tu pourras préserver les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et préserver sa législation. Donc ici, lorsqu'il lui dit « préserve Allah », c'est-à-dire préserve la religion d'Allah, apprends la religion d'Allah afin de connaître les ordres d'Allah et de connaître ses interdits. Tu apprends ses ordres afin de les mettre en pratique et tu apprends ses interdits afin de t'en écarter et de t'en prémunir. Et si tu préserves la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va te préserver. Allah subhanahu wa ta'ala, il va préserver ta religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il va préserver ta famille. Allah subhanahu wa ta'ala, il va préserver tes biens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va préserver ta personne. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense les bienfaisants en fonction de leur bienfaisance. Et la chose la plus importante que l'on a besoin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de doute que c'est notre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur sa religion et qu'il nous préserve de tout égarement et de toute déviance. Et plus la personne se met sur le droit chemin, plus la personne cherche la guider, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'augmente encore plus en termes de guider et en termes de piété. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 17 de la sourate Muhammad, « وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَىٰ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ » Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur accorda la piété. Donc, plus la personne va préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala le mettra à l'abri de la déviance et de l'égarement. Le musulman, il doit donc faire des efforts dans cela. Et comme on l'a dit, la clé de cela est avant tout l'étude de la science religieuse. Et on déduit de cela également que celui qui ne préserve pas Allah, c'est-à-dire qui ne préserve pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne préserve pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne se soumet pas à ses ordres, qui ne délaisse pas ses interdits, qui n'apprend pas sa religion, alors il ne mérite pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il ne mérite pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve dans sa religion, dans ses biens, dans sa famille et dans sa personne. Et ceci est un encouragement pour nous, mes frères, à préserver les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala autant que possible. Et on demande à Allah de nous assister dans cela. La deuxième recommandation, ou la deuxième parole, c'est qu'il lui a dit, préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Donc préserve Allah, cela a le même sens que dans la phrase précédente. Il lui dit donc préserve Allah, c'est-à-dire préserve les ordres d'Allah, préserve la religion d'Allah, tu le trouveras devant toi. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'indiquera tout bien. Il te rapprochera des bonnes choses et il te guidera vers le bien de la même manière qu'il te préservera contre tout mal. Surtout si tu préserves les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en implorant son aide. Car lorsque l'homme demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah lui suffit et il n'a besoin de nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 64 de surat Al-Anfal, « Ya ayyuhan nabi, hasbuka Allahu wa mani taba'aka min al-mu'minin. » Ô prophète, Allah te suffit à toi ainsi qu'aux croyants qui te suivent. Allah te suffit à toi ainsi qu'aux croyants qui te suivent. C'est-à-dire qu'Allah suffit au prophète et Allah suffit aux croyants qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est donc pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici dans cette deuxième parole, préserve Allah, tu le trouveras devant toi. C'est-à-dire qu'Allah te suffira, il te préservera, t'accordera tout bien et te préservera de tout mal. La troisième parole ou la troisième recommandation, C'est sa parole. Si tu demandes, demande à Allah. C'est-à-dire que si tu as un besoin, que tu as une demande à adresser, alors adresse cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'adresse pas cette demande aux créatures. Ne te rabaisse pas devant ces créatures qui sont tout aussi faibles que toi. Mais demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il arrive que tu aies besoin d'adresser certaines demandes à des créatures dans une chose qu'ils sont capables de faire, alors il est impératif que tu saches que cette créature n'est qu'une cause parmi les causes et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette cause et qui te l'a accordée. Et si Allah avait voulu, il l'aurait empêché de répondre à ta demande. Tu dois donc t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. Même lorsque tu adresses une demande à une créature, une personne vivante, une personne présente, capable d'accomplir ce que tu lui demandes, tu dois t'en remettre avant tout à Allah subhanahu wa ta'ala et te rappeler que cette créature n'est qu'une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à ton service. La quatrième parole, ou la quatrième recommandation, qui est proche de la précédente, est sa parole sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu cherches de l'aide, alors cherche-la auprès d'Allah. Ou si tu cherches de l'aide, implore l'aide d'Allah. C'est-à-dire que si tu as besoin d'aide dans une chose, ne demande pas l'aide à une créature, mais demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient en sa main la royauté des cieux et de la terre. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il t'aidera si tu es sincère et que tu lui adresses exclusivement la demande d'aide et que tu places ta confiance en lui, alors Allah subhanahu wa ta'ala te viendra en aide. Et si tu demandes l'aide à une créature dans une chose qu'elle est capable d'accomplir, alors, comme on l'a dit précédemment, tu dois avoir la ferme conviction que cette créature n'est qu'une cause et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a mis à ton service et qui te l'a accordé. Donc dans ces deux recommandations, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si tu demandes, demande à Allah. Et si tu cherches de l'aide, implore l'aide d'Allah. » Ceci est une preuve qu'il fait partie, que c'est un manque et une défaillance dans le tawhid que l'homme adresse des demandes à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou implore l'aide d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est détestable d'adresser des demandes à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut te venir en aide, alors il te facilite cela, ou il te facilite les choses pour lesquelles tu as besoin d'aide, par des causes que tu connaîtras ou des causes que tu ignoreras. Il est possible qu'il t'aide, subhanahu wa ta'ala, par une cause que tu ignores et dont tu n'as pas la connaissance. Il te préserve ainsi d'un mal immense que tu n'aurais pas pu supporter et que nul autre que lui n'aurait pu t'aider à y faire face. De la même manière, il est possible qu'il t'aide, subhanahu wa ta'ala, par des causes dont tu as connaissance et qui sont visibles. Malgré cela, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te vient en aide en mettant à ton service une de ses créatures, alors tu ne dois pas oublier que c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala, qui t'est venu en aide et qui a mis à ton service cette créature. La cinquième recommandation est sa parole, sallallahu alayhi wa sallam. Sache que si tout le monde se réunissait pour te faire profiter d'une chose, il ne pourrait te faire profiter que d'une chose qu'Allah a écrite pour toi. C'est-à-dire que si le monde entier, des premiers jusqu'au dernier, il se réunissait pour te faire profiter d'une chose, il ne pourrait te faire profiter que d'une chose qu'Allah a écrite pour toi. Ils ne pourront rien faire pour toi en dehors de ce qu'Allah a écrit, subhanahu wa ta'ala. Donc, le bien qu'une créature peut faire en ta faveur, ce bien en réalité, il provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui l'a écrit pour toi. Et ceci nous incite, mes frères, à quoi? Ceci nous incite à nous en remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. À placer notre confiance totalement en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à savoir que la communauté, le monde entier, ils ne peuvent pour nous aucun bien si ce n'est par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La sixième parole, ou la sixième recommandation, c'est sa parole, sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il se réunissait, c'est-à-dire tout le monde, et s'il se réunissait pour te nuire par une chose, il ne pourrait te nuire que par une chose qu'Allah a écrite contre toi. De la même manière que le monde entier ne peut être utile et ne peut être profitable que par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors tu dois savoir qu'ils ne peuvent te causer aucun tort, même s'ils se réunissent tous contre toi, Ils ne peuvent en rien te nuire en dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété contre toi. Donc, si une nuisance t'atteint d'une quelconque créature qui te cause du tort ou te nuit, alors tu dois te rappeler qu'avant toute chose, ceci est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cette chose à ton sujet. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois agréer le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne dois pas te courroucer contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu dois patienter, accepter ce destin et y faire face par les causes légiférées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à ce que tu essayes de repousser ce mal, de te défendre ou de te mettre à l'abri de ce mal en utilisant des causes légiférées. Ceci ne s'oppose pas à la fois au destin et à la patience face au décret douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il a la ferme conviction que nul ne peut lui nuire sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il accepte son décret. Et il ne craint pas la nuisance des ennemis. Il ne craint pas la nuisance des gens qui lui veulent du mal. Mais il patiente. Il reste ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait que rien ne l'atteindra en dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit contre lui. La septième parole, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les plumes sont levées et les feuilles ont séché. C'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit et ce qu'il a décrété, ceci est terminé et cela ne va pas changer. Les plumes, elles sont levées. Elles ne vont plus écrire. Les feuilles, elles ont séché. Il n'y aura donc pas de changement au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc les sept premières recommandations qui sont venues dans la première version du hadith. Il dit ensuite, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, est dans une autre version que celle d'At-Tirmidhi, il est rapporté. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. On a déjà vu l'explication de cette recommandation. Cherche à connaître Allah lors de l'aisance, il te connaîtra lors de l'adversité. Et ceci est la huitième recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Qu'est-ce que cette recommandation signifie? Cherche à connaître Allah lors de l'aisance. C'est-à-dire, donne à Allah subhanahu wa ta'ala son droit. Accomplis son adoration. Soumets-toi à ses ordres. Écarte-toi de ses interdits lorsque tu es dans l'aisance. Lorsque tu es en bonne santé, lorsque tu es en situation de richesse, lorsque tu n'es pas dans le besoin, soumets-toi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te connaîtra lors de l'adversité. C'est-à-dire, lorsque tu perdras la santé, lorsque tu perdras la richesse, lorsque tu seras dans le besoin, Allah subhanahu wa ta'ala te connaîtra. C'est-à-dire qu'il te facilitera et il t'accordera le bien parce que tu cherchais à le connaître. Et tu lui donnais son droit lorsque tu étais dans l'aisance. C'est-à-dire que les adorations que tu accomplis lorsque tu es en situation d'aisance, lorsque tu es dans la facilité, lorsque tu es en bonne santé, toutes ces adorations, elles sont une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te vienne en aide lorsque tu es en difficulté. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, « Empressez-vous d'accomplir des bonnes œuvres avant l'arrivée de troubles obscurs. » Empressez-vous d'accomplir des bonnes œuvres avant l'arrivée de troubles obscurs. L'homme se lèvera le matin croyant et il se couchera le soir mécréant. Il se couchera le soir croyant et se lèvera le matin mécréant. Il vendra sa religion pour un bien vil de ce bas monde. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enjoint de nous empresser à accomplir des bonnes œuvres. Pourquoi? Pour que lorsque viendront les troubles, tu arrives à y faire face. Allah subhanahu wa ta'ala, il te connaîtra lorsque tu seras dans l'adversité, parce que tu cherchais à le connaître lorsque tu étais dans l'aisance. Et c'est à ce sujet également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans les versets 143 et 144 de la sourate As-Saffat. Il dit subhanahu wa ta'ala au sujet de son prophète Yunus alayhi salam. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, c'est-à-dire Yunus, il serait resté dans son ventre, c'est-à-dire dans le ventre de la baleine, jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Les savants du tafsir ont expliqué la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction des sens rapprochés, s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah. L'imam al-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, a dit, c'est-à-dire auparavant, par les nombreuses adorations qu'il accomplissait pour son Seigneur. L'imam al-Barawi, rahimahullah, il a dit, c'est-à-dire qu'il faisait partie de ceux qui évoquent Allah avant cela, avant cette épreuve. Et il a mentionné la parole de Dhahak, rahimahullah, qui a dit « Allah subhanahu wa ta'ala a reconnu pour lui son adoration précédente, les adorations qu'il accomplissait auparavant. » L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit « On a dit que si ce n'était pas ce qu'il avait accompli comme œuvre alors qu'il était dans l'aisance, s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, c'est-à-dire ce qu'il a accompli comme œuvre, alors qu'il était dans l'aisance, avant que ne lui vienne l'épreuve. » Et l'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est-à-dire qu'il faisait partie des prières pour Allah avant l'épreuve, par laquelle il a été éprouvé. On retrouve donc, dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le sens de ce verset. Yunus alayhi salam, il a été sauvé de son épreuve, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, car auparavant, lorsqu'il était dans l'aisance, il faisait partie des prières. Il faisait partie de ceux qui invoquent beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Il vouait beaucoup d'adoration à son Seigneur. Donc mon frère, lorsque tu es dans l'aisance, lorsque tu es en bonne santé, lorsque tu es en situation de richesse, lorsque tu es bien et que tu es facilité, profites-en pour vouer un maximum d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque te viendra la difficulté, lorsque tu seras en situation de maladie, lorsque tu seras en situation de pauvreté, lorsque tu seras éprouvé par différentes épreuves et différentes tentations, alors tu ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala te viendra en aide à ce moment-là si auparavant tu as été négligent vis-à-vis de ses ordres subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il doit donc s'empresser de vouer des adorations à Allah subhanahu wa ta'ala pendant qu'il en a les capacités. Ensuite, il a dit dans sa 9e recommandation, « Sache que ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre et ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. » C'est-à-dire, ce que tu as subi comme épreuve, tu ne pouvais pas le repousser. Et il t'est impossible d'obtenir un bien qui ne t'est pas décrété. C'est-à-dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, alors ceci t'atteindra et ceci est inévitable. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas décrété, alors il est impossible que cela t'atteigne et il est impossible pour toi de l'obtenir. Mais tu n'obtiendras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Donc, le musulman, il doit savoir que l'ordre tout entier est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci te pousse à t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala de façon complète et à placer ta confiance en lui. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, 3 paroles immenses dans sa 10e recommandation. Sache que la victoire vient avec la patience. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il t'encourage à patienter face à ces épreuves. Car la victoire, le triomphe, il ne vient qu'avec la patience. C'est en patientant que l'homme, il peut obtenir la victoire et obtenir le triomphe. Et la patience ici, elle englobe les 3 formes de patience. La patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La patience face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, la 3e type de patience qui est la patience face aux décrets douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la maladie, la mort d'un proche, la pauvreté ou autre épreuve par lesquelles l'homme peut être atteint dans ce bas monde. Donc le musulman, il patiente lors des épreuves. Et il a la ferme conviction que la victoire, elle vient avec quoi? Elle vient avec la patience. Donc tu patientes et tu attends le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, et que la délivrance vient avec l'adversité. C'est-à-dire la délivrance de l'épreuve. La délivrance de la difficulté, elle vient avec l'adversité. C'est-à-dire que plus la situation devient difficile, plus la situation est dure pour toi, et plus l'épreuve s'amplifie, alors plus la fin est proche, bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et la facilité avec la difficulté. C'est-à-dire qu'avec chaque difficulté, il y a une facilité. On dit même qu'avec chaque difficulté, il y a 2 facilités. Une facilité qui la précède et une facilité qui la suit. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى. Avec la difficulté, il y a certes une facilité. Avec la difficulté, il y a certes une facilité. Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, a dit, certes, une difficulté ne pourra jamais prendre le dessus sur 2 facilités. Donc comme vous le voyez, mes frères, ce hadith, en réalité, il comporte des recommandations immenses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il tourne surtout autour de la foi au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de croire que tout ce qui nous arrive ici-bas est décrété par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ses bénéfices sont très nombreux. Mais nous avons déjà expliqué en partie le sens de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam. Et on va se contenter ici d'énumérer brièvement 16 bénéfices que l'on tire de ce hadith. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith la bienveillance du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les enfants et l'importance qu'il donnait à leur éducation. En effet, on voit qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ses paroles riches en enseignements à son cousin Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il convient à celui qui va prononcer une parole d'une grande importance de la faire précéder d'une parole qui va attirer l'attention de son interlocuteur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a fait, « Oh garçon, je vais t'enseigner des paroles » afin d'attirer son attention. Il n'a pas commencé directement à lui adresser les recommandations. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que celui qui préserve Allah, c'est-à-dire qui préserve la religion d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala le préservera, comme on l'a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit dans son noble livre, « In tansurullaha yansurkum » Si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah vous fera triompher. Donc le musulman, il doit veiller à préserver les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, s'il préserve les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le préservera de tout mal et lui accordera tout bien, bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que celui qui néglige Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui néglige la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala le négligera et l'abandonnera à lui-même et il ne le préservera pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 19 de Surat al-Hashr, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a alors fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la négligence envers sa religion et de nous compter parmi ceux qui préservent ses ordres et s'écartent de ses interdits. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que celui qui préserve Allah subhanahu wa ta'ala et préserve la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah le guide, Allah l'oriente vers le bien et il fait alors nécessairement partie de la préservation d'Allah qu'il le préservera de tout mal par sa permission subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que lorsque l'homme a besoin d'une chose ou qu'il a besoin d'aide, alors qu'il demande cette chose ou qu'il implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'implore pas l'aide d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il adresse ses demandes seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, il n'y a pas de mal à ce que la personne demande de l'aide, mais ce, à trois conditions auxquelles on a fait allusion précédemment. Premièrement, il faut que la personne soit vivante. Tu ne peux pas demander de l'aide ou adresser une demande à un mort. Ceci est du polythéisme. Deuxièmement, il faut que la personne soit présente, que sa présence soit physique ou une présence matérielle, comme par exemple avec les moyens de technologie moderne. Une personne, elle peut se trouver dans un pays, avoir besoin d'aide, besoin d'argent, et elle appelle une personne dans un autre pays pour lui demander de lui envoyer cette somme d'argent dont elle a besoin. Ceci est une forme de présence. La troisième condition pour demander l'aide à une créature, c'est qu'elle soit capable d'accomplir ce que tu lui demandes. Et enfin, certains savants ont ajouté, comme on y a fait allusion, l'importance d'avoir la ferme conviction que cette personne n'est qu'une cause, mais que l'aide, elle provient en réalité de qui ? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc dans ce hadith un appel à la concrétisation du tawhid en te contentant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en délaissant les demandes à ses créatures subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il concrétise donc son tawhid. Il concrétise donc sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala en se passant des créatures et en se suffisant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que la communauté, elle ne peut profiter à personne en dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour cette personne. Et ils ne peuvent nuire à personne en dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit contre cette personne. Donc, l'ordre, il revient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Huitièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il est obligatoire pour l'homme de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas se tourner vers les créatures. Car les créatures, elles ne possèdent ni bien ni mal. Elles ne possèdent ni profit ni nuisance. Mais ceci tout entier est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède le bien et le mal entre ses mains. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide du bien qui t'atteindra et du mal qui t'atteindra. Donc, le musulman, il doit vouer son espoir exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et placer sa confiance en lui. Neuvièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que toute chose est écrite et décrétée. Et ceci est rapporté dans un hadith rapporté par l'imam muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les destinées de toutes choses avant la création des cieux et de la terre de 50 000 années. » C'est-à-dire 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la plume d'écrire toutes choses. Dixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que si l'homme voue l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il est en bonne santé et lorsqu'il est dans l'aisance, alors Allah subhanahu wa ta'ala le connaîtra lorsqu'il sera dans la difficulté et l'adversité. Il lui viendra en aide et dissipera la difficulté dans laquelle il se trouve. Onzièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que seul ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour toi t'atteindra et que rien ne t'atteindra en dehors de ce qu'il a écrit contre toi. C'est-à-dire que tout ce que tu obtiens parmi les biens religieux ou les biens mondains, Allah subhanahu wa ta'ala te l'a destiné. Et ceci n'aurait pu t'échapper. Et tout ce qui te touche comme épreuve et comme difficulté, ceci est écrit contre toi. Et tu n'aurais pas pu l'éviter. Donc, si le musulman il sait cela, il va alors placer sa confiance entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va savoir fermement que seul ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a écrit, il l'obtiendra et qu'il n'obtiendra rien d'autre que cela. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith la bonne annonce faite aux patients, la bonne annonce faite aux endurants, étant donné que la victoire et le triomphe viennent avec la patience. Et ceci te pousse, mon frère, à avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et à placer ta confiance en lui subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu patientes lors de l'épreuve et tu as la ferme conviction qu'avec cette patience, en patientant, en agréant le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu obtiendras la victoire et le triomphe par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Treizièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith la bonne annonce faite à ceux qui se trouvent dans des adversités ou dans des difficultés. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La délivrance vient avec l'adversité ». C'est-à-dire que plus l'épreuve est difficile et plus tu t'enfonces dans la difficulté, plus la fin est proche, plus l'issue est proche et plus le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Donc ceci t'incite également à quoi ? Ceci t'incite également à patienter et à attendre le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatorzièmement, il y a comme bénéfice de ce hadith la bonne annonce faites à celui qui se trouve dans une difficulté et qu'il doit attendre la facilité. C'est-à-dire que lorsque tu es dans une difficulté, tu dois savoir que cette difficulté, elle sera forcément accompagnée de la facilité. Tu dois donc croire fermement en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ » Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Quinzièmement, il y a comme bénéfice de ce hadith un apaisement et un soulagement pour le croyant lorsqu'il se retrouve dans des épreuves. C'est-à-dire que lorsque tu es dans une épreuve, qu'un mal t'atteint ou alors qu'une chose que tu souhaitais t'échappe, tu dois avoir la ferme conviction que ceci est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit comme on l'a vu dans ce hadith, « Sache que ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. » Donc, ceci est un réconfort pour toi lorsque tu te trouves dans une situation où une chose que tu souhaitais t'a échappé. Tu dois savoir que cette chose, elle ne pouvait t'atteindre, car Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a pas décrété. Et dans la deuxième phrase, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. C'est-à-dire, ce qui t'a touché dans l'épreuve, ce qui t'a touché comme difficulté, tu ne pouvais pas y échapper. Ceci est donc un soulagement pour toi et un apaisement lorsque tu te retrouves dans la difficulté. Enfin, Seizièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le mérite de la foi en destin et ses fruits immenses et profitables dans la vie du serviteur. Car celui qui croit fermement en destin et qui sait que toute chose qui lui arrive dans ce bas monde n'est que le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne sera jamais affligé. Il ne s'attristera pas de la situation dans laquelle il se trouve, car il sait que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala est un bien pour lui, inshallah ta'ala. Car si c'est un bien, il va être reconnaissant. Et Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera pour cette reconnaissance. Et lui rajoutera bienfait à son bienfait. Si c'est une épreuve ou une difficulté, alors il sera patient. Et Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera pour cette patience. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith que l'affaire du croyant est étonnante. Que l'affaire du croyant est étonnante. Il lui arrive un mal et il patiente et ceci est un bien pour lui. Il lui arrive un bien, il est reconnaissant et ceci est un bien pour lui. Et ceci n'est que pour le croyant. Car il n'y a que le croyant qui est reconnaissant lors de l'aisance et patient lors de la difficulté. Et ceci font partie des caractéristiques des serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Et comme je vous l'ai dit, les bénéfices sont en réalité bien plus nombreux que cela. Mais on a mentionné ici ce qui est suffisant, incha'Allah ta'ala. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.